Aristote, Politique, livre 8, chapitre 6. Sommaire. Des causes de révolution dans les aristocraties. Minorité trop restreinte des membres du gouvernement. Infraction au droit constitutionnel. Influence des deux partis contraires exagérant leurs principes. Fortune excessive des principaux citoyens. Causes insensibles, causes extérieures de destruction. Fin de la théorie des révolutions dans les États républicains. Paragraphe 1. Dans les aristocraties, la révolution peut venir d'abord de ce que les fonctions publiques sont le partage d'une minorité trop restreinte. Nous avons déjà reconnu que c'était aussi un motif de bouleversement pour les oligarchies, car l'aristocratie est une sorte d'oligarchie. Et, dans l'une comme dans l'autre, le pouvoir appartient à des minorités, bien que les minorités aient de part et d'autre des caractères différents. C'est même là ce qui fait qu'on prend souvent l'aristocratie pour une oligarchie. Le genre de révolution dont nous parlons s'y produit nécessairement, dans trois cas surtout. D'abord, quand il se rencontre en dehors du gouvernement une masse de citoyens qui, pleins de fierté, se sentent par leur mérite les égaux de tout ce qui les entoure. Par exemple, ceux qu'à Sparte on appela les Parthéniens et dont les pères valaient ceux des autres Spartiates. On découvrit une conspiration parmi eux et le gouvernement les envoya fonder une colonie à Tarente. Paragraphe 2. Puis, en second lieu, lorsque des hommes éminents et qui ne le cèdent en mérite à qui que ce soit sont outragés par des gens placés au-dessus d'eux, tel fut Lysandre qu'offensèrent les rois de Lacédémone. Enfin, quand on repousse de toute fonction un homme de cœur, comme Cynadon, qui tenta ce hardi coup de main contre les Spartiates sous le règne d'Agésilas. La révolution dans les aristocraties naît aussi de la misère extrême des uns, de l'opulence excessive des autres. Et ce sont là les conséquences assez habituelles de la guerre. Telle fut encore la situation de Sparte durant les guerres de Messénie, comme l'atteste le poème de Tyrtée nommé l'Eunomie. Quelques citoyens, ruinés par la guerre, avaient demandé le partage des immeubles. Parfois, la révolution a lieu dans l'aristocratie, parce qu'il y a quelques citoyens qui est puissant et qui prétend le devenir encore davantage, pour s'emparer de tout le pouvoir à son profit. C'est ce que tenta, dit-on, à Sparte, Pausanias, général en chef de la Grèce durant la guerre médique, et Hannon, à Carthage. Paragraphe 3. Le mal le plus funeste à l'existence des républiques et des aristocraties, c'est l'infraction du droit politique tel que le reconnaît la Constitution même. Ce qui cause la révolution, alors, c'est que pour la République, l'élément démocratique et l'élément oligarchique ne se trouvent pas en proportion convenable. Et pour l'aristocratie, que ces deux éléments et le mérite sont mal combinés. Mais la désunion se prononce surtout entre les deux premiers éléments, je veux dire la démocratie et l'oligarchie, que cherchent à réunir les républiques et la plupart des aristocraties. Paragraphe 4. La fusion absolue de ces trois éléments est précisément ce qui rend les aristocraties différentes de ce qu'on appelle les républiques et leur donne plus ou moins de stabilité. Car on range, parmi les aristocraties, tous les gouvernements qui inclinent à l'oligarchie, et parmi les républiques, tous ceux qui inclinent à la démocratie. les formes démocratiques sont les plus solides de toutes, parce que c'est la majorité qui y domine, et que cette égalité dont on y jouit fait chérir la constitution qui la donne. Les riches, au contraire, quand la constitution leur assure une supériorité politique, ne cherchent qu'à satisfaire leur orgueil et leur ambition. Paragraphe 5. De quelque côté du reste que penche le principe du gouvernement, il dégénère toujours grâce à l'influence des deux partis contraires, qui ne pensent jamais qu'à l'accroissement de leur pouvoir. La République en démagogie et l'aristocratie en oligarchie. Ou bien, tout au contraire, l'aristocratie dégénère en démagogie quand les plus pauvres, victimes de l'oppression, font prédominer le principe opposé, et la République en oligarchie. Car la seule constitution stable est celle qui accorde l'égalité en proportion du mérite et qui sait garantir les droits de tous les citoyens. Le changement politique dont je viens de parler s'est produit à Thurium. D'abord, parce que les conditions de sens mises aux emplois publics étant trop élevées, elles furent réduites et les magistratures multipliées. Et puis, parce que les principaux citoyens, malgré le vœu de la loi, avaient accaparé tous les bienfonds, car la constitution tout à fait oligarchique leur permettait de s'enrichir à leur gré. Mais le peuple, aguerri dans les combats, devint bientôt plus fort que les soldats qui l'opprimaient et réduisit les propriétés de tous ceux qui en avaient de trop considérables. Paragraphe 7. Ce mélange d'oligarchie que renferment toutes les aristocraties est précisément ce qui procure aux principaux citoyens la facilité de faire des fortunes excessives. À la Cédémone, tous les bienfonds se sont accumulés dans quelques mains, et les citoyens puissants peuvent s'y conduire absolument comme ils veulent et contracter des alliances de famille selon leurs convenances personnelles. Ce qui perdit la République de l'ocre, c'est qu'on permit à Denis de s'y marier. Une catastrophe pareille ne serait jamais arrivée ni dans la démocratie, ni dans une aristocratie sagement tempérée. Le plus souvent, les révolutions dans les aristocraties s'accomplissent sans qu'on s'en aperçoive et par une destruction insensible. On se rappelle qu'en traitant du principe général des révolutions, nous avons dit qu'il fallait compter aussi parmi les causes qui les amènent les déviations de principe, même les plus légères. D'abord, on néglige un point de la Constitution sans importance. Puis, on arrive, avec moins de peine, à en changer un autre qui est un peu plus grave, jusqu'à ce qu'enfin, on en vienne à changer le principe tout entier. Paragraphe 8. Je citerai de nouveau l'exemple de Thurium. Une loi limitait à 5 ans les fonctions de général. Quelques jeunes gens belliqueux, qui jouissaient d'une grande influence auprès des soldats, et qui, dans leur mépris pour les hommes en place, croyaient pouvoir les supplanter aisément, essayèrent en premier lieu de faire rapporter cette loi et d'obtenir, par les suffrages du peuple, qui était tout prêt à les leur donner, la perpétuité des emplois militaires. D'abord, les magistrats que la question regardait et qu'on nommait co-sénateurs voulurent résister. Néanmoins, s'imaginant que cette concession garantirait la stabilité du reste des lois, ils cédèrent, comme les autres. Mais lorsque plus tard, ils prétendirent empêcher de nouveaux changements, ils furent impuissants, et la République devint bientôt une oligarchie violente aux mains de ceux qui avaient tenté la première innovation. Paragraphe 9. On peut dire en général de tous les gouvernements qu'ils succombent tantôt à des causes internes de destruction, tantôt à des causes qui leur sont extérieures. Par exemple, quand ils ont à leur porte un état constitué par un principe opposé au leur, ou bien quand cet ennemi, tout éloigné qu'il est, possède une grande puissance. Voyez la lutte de Sparte et d'Athènes. Partout, les Athéniens renversaient les oligarchies, tandis que les Lacédémoniens renversaient des constitutions démocratiques. Paragraphe 10. Telles sont à peu près les causes de bouleversement et de révolution dans les diverses espèces de gouvernement républicain.